à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, Messieurs, bonjour et je suis très très ravie de vous retrouver dans votre émission À visage découvert. Et À visage découvert aujourd'hui avec deux grands auteurs, on vous amènera dans le monde de l'intelligence artificielle et ses effets pervers. L'IA, une révolution civilisationnelle incontournable, quelle place à l'humain dans un monde de plus en plus algorithmé. Alors, la réponse, ou les réponses plutôt, avec nos deux invités ici présents. Ils sont auteurs de deux ouvrages. Ils sont présents avec nous dans les studios de Radio Orient. Il s'agit de Feriel Furon, bonjour.
Bonjour Nadia, bonjour tout le monde.
Et de Christophe Médici, vous deux, des habitués des studios de Radio Orient.
Bonjour Nadia, ravi de revenir.
Eh bien, très rapidement, on va vous présenter à nos auditeurs qui vous découvrent pour la première fois. Donc, honneur aux dames, évidemment. Feriel Furon, de retour sur la scène médiatique, il faut le dire, après un long silence. Vous allez nous expliquer pourquoi, justement, un long silence. On vous a connu avec la casquette de l'association Phare, qui avait brillé, comme son nom l'indique, Phare. Vous êtes docteur en pharmacie et diplômé d'un master spécialisé en marketing, management et digital à l'ESSEC, tout ça à la fois. Dans votre ouvrage « Réinventer l'humain », vous interrogez l'humain dans un monde technologique en profonde mutation. Voilà qui est dit. Et pour Christophe Médici, voilà un homme qu'on a du mal à présenter parce qu'il a, je ne sais pas combien de casquettes, on ne les compte plus. Christophe Médici, psychosociologue, conférencier, coach, formateur. Vous êtes également chroniqueur dans pas mal de médias. On ne les citera pas parce qu'il s'agit de radios concurrentes. Vous êtes l'auteur de la HQR, haute qualité relationnelle, une méthode qui nous fournit, il faut le dire, des clés du mieux-être ensemble. Auteur de 22 ouvrages, j'ai bien compté.
Bravo Nadia.
22 ouvrages et dans le dernier, Tsunamia aux éditions du CIN. Alors Tsunamia, bien sûr, il s'agit d'un tsunami, il faut s'y préparer par rapport à l'IA, et il nous fournit dans cet ouvrage une panoplie de clés. Il vient avec sa boîte à outils, avec des clés pour se prémunir, pour se protéger, et pour faire de l'IA, l'intelligence artificielle, un moyen de progression et de modernité. Voilà qui est dit. Donc bienvenue, encore une fois, dans nos studios. Avant de plonger dans l'univers de l'IA, un mot sur un éminent philosophe qui nous a quittés à l'âge de 104 ans. Il s'agit d'Edgar Morin, vous l'avez connu. Un hommage national lui est rendu aujourd'hui. Que vous inspire le parcours de cet homme ? Alors, qui va ouvrir le bal ?
Moi, de toute façon, en plus personnellement, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, puisque Edgar a été mon professeur de sociologie. Il était et philosophe et sociologue, Nadia.
Hein. Tout à fait. Et
il a évidemment été le père du concept de la complexité. Mais bien avant ça, comme Edgar est parti faire son dernier voyage, on peut dire qu'en ce moment où, avec Feriel et moi, on va parler de cette révolution de l'IA qui nous importe tous, lui, il disait qu'il y avait deux temps dans l'espèce humaine, Nadia. Il y avait le temps prosaïque, n'est-ce pas, et le temps poétique. Et il disait que si une vie vaut la peine d'être vécue, c'est parce qu'on peut voir le sourire d'un enfant, on peut danser ensemble, on peut chanter ensemble, on peut faire la fête. Et lui, il avait cette vision que si la vie a du sens, c'est parce qu'il y a du temps poétique, Nadia. Et ouais, c'est bien que la France lui rende hommage en un hommage national, parce que des grands...
Un hommage hautement mérité.
Ouais, hein. Des grands éveilleurs comme Edgar Morin, bien, c'est des gens qui vont... D'abord, il est immortel pour moi, donc on a encore son œuvre.
Bien sûr, avec l'œuvre, l'héritage, voilà, qu'il a laissé. Évidemment,
et donc,
on ne meurt jamais.
Paix à ton âme, Edgar, et tu m'as beaucoup appris.
Voilà, il a été votre professeur. Et vous, Feriel Furon, vous l'avez connu, vous l'avez lu au moins, j'imagine ?
Oui, bien sûr, moi, Edgar Morin m'a beaucoup inspiré. Et moi, il m'inspire, moi, justement, c'est ce concept de pensée complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, justement, il faut développer une transversalité, une transdisciplinarité. C'est très, très important de pouvoir faire des liens entre les disciplines pour avoir beaucoup plus de discernement, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, on parlait des dérives et des menaces liées à l'IA, il y a aussi une opportunité parce que l'IA peut aussi nous aider à amplifier nos connaissances, si vous voulez, mais tout en gardant une maîtrise, c'est très important, une maîtrise sur la machine.
Alors, il a laissé un monde complètement bouleversé par les guerres, par justement, il a assisté à l'arrivée de l'intelligence artificielle, lui qui a parlé du sens. Alors aujourd'hui, est-ce que justement dans le cadre de l'IAS, on n'est pas en perte de sens, Christophe?
En tout cas, la dimension du sens, elle est importante aux trois dimensions. Le sens au sens de la direction, dans quelle direction va l'humanité. Là, avec cette révolution qui est nouvelle, on a des questions à se poser, même si je suis d'accord avec Fourier, il ne faut pas être IA-phobe, c'est complètement idiot. D'abord parce qu'on n'arrête pas le progrès, on est dedans, on sera dedans et pour des siècles et des siècles. Le sens au sens de la signification, ça signifie quoi là, tout ce qui nous arrive là? Tout ce qui nous arrive, cette nouvelle technologie qui imite quand même d'une manière incroyable l'espèce humaine, à parfois même faire que des gens s'étonnent, mais prennent l'IA pour l'humain. On va parler peut-être des histoires d'amour et non pas des histoires d'amour. Et puis le sens au sens du feeling. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui manque, puisque la question du sens...
Nous l'avons pas avec l'IA, évidemment.
Je vais vous raconter une anecdote que je lisais juste avant d'arriver à l'émission, Nadia Bey. Il y a un grand monsieur qui est prof à la Harvard School et qui a créé la plus grande université française sur l'IA. C'est une école qui s'appelle Event City. Ce monsieur, il s'appelle Tawid Chawid. Il dit qu'il y a 2 semaines, son enfant est en train de panouiller sur un devoir. J'entendais Ferial en off parler d'éducation, elle a tout à fait raison, c'est vraiment un des problèmes centraux, ça, l'IA et l'éducation, l'IA et l'enseignement. Et il lui dit, veux-tu que je t'aide? C'est quand même un docteur, il est très fort. Et il lui dit, non papa, merci, ChatGPT m'a déjà répondu à toutes les questions. Il revient, il est un peu baissé dans son orgueil, et il laisse pas passer la chose. Il lui dit, mais je peux peut-être t'aider, papa, ChatGPT m'a mieux expliqué que toi. Et il dit, quand même là, je me posais des questions, on en est où des écoliers de collège disent, ChatGPT m'explique mieux que moi, le parent.
Alors, on va revenir sur le pouvoir ou les pouvoirs de l'IA et les pouvoirs qui vont disparaître. D'abord, l'autorité parentale, d'une part. Et d'autre part, vous avez un autre pouvoir, celui de l'instituteur, celui du professeur, qui avait justement le monopole du savoir. Et aujourd'hui, le monopole du savoir passe du professeur à ChatGPT. Alors, mais avant tout ça, qu'est-ce qu'être IA
Oui, alors aujourd'hui, Nadia, en fait, le débat sur l'IA est très polarisé. On a vraiment les IA-phobes, du style, il ne faut pas utiliser cet outil, c'est un outil maléfique. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus positifs. Alors, moi, je suis complètement nuancée. Enfin, mon positionnement dans le cadre de cet ouvrage, il se situe vraiment au-delà du clivage. Oui. De toute façon, cet outil-là, il est là. Et la jeune génération va baigner avec cet outil et c'est comme la calculatrice, on va l'avoir tout le temps. Donc aujourd'hui, il faut vraiment...
Sauf que la calculatrice ne fait pas autant de dégâts que l'IA. Ça, on ne peut pas faire la comparaison entre l'IA et la calculatrice.
Mais en fait, l'IA pousse l'humain à réinvestir en fait ses capacités et notamment l'intuition, la pensée globale, etc. Donc ça peut être une opportunité pour cela. Mais il faut vraiment faire de cet usage un usage intelligent. Moi, mon positionnement, il s'inscrit dans ce qu'a dit le pape, en fait. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est à un moment de bascule, et c'est ce que je dis moi dans mon livre, qui est sorti avant l'encyclique du pape. Je suis assez fière, du coup. On est vraiment à un moment de bascule de l'humanité où il y a 2 voies qui se dessinent. Il y a celle, le pape symbolise ça avec la tour de Babel, vous voyez. Donc, c'est en fait un monde extrêmement technologique où il y a le profit, si vous voulez, qui est le moteur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces outils-là sont entre les mains d'une poignée d'individus milliardaires. Donc, le pouvoir est très centralisé. Et donc, il y a un risque pour nos démocraties, etc. Donc, je veux dire, cette voie-là qui nous mène aussi... Qui repose sur une vision mécaniste du monde, qui nous mène vers le transhumanisme, le post-humanisme, c'est très préoccupant. Mais on peut faire un tournant, un virage, le pape utilise le deuxième récit biblique qui est en fait la construction du mur de Jérusalem, où en fait chacun apporte sa pierre à l'édifice et pour justement retrouver notre humanité, etc. Donc c'est vraiment...
On va revenir tout à l'heure, mais en attendant, il s'est passé ce lundi un événement majeur, c'est le fameux sommet Choose France, c'était la 9e édition, ouvert par le président de la République, il met le paquet, pour dire que les choses vont très très vite maintenant avec l'arrivée des capitaux des entreprises étrangères. Un investissement de 93 milliards des entreprises étrangères pour la création de 15 000 emplois. Bien sûr, personne ne va cracher sur les 15 000 emplois, on est d'accord, Christophe.
Mais bien sûr, et puis là, en l'occurrence, il faut rendre qui tue, c'est quelqu'un qui en prend plein la tête depuis quelques années, c'est le président Macron qui, quelque part, fait le bon commercial de la France. Je rappelle à tous vos auditeurs, qui sont très nombreux, que la France est le premier pays d'Europe où les grandes entreprises investissent. C'est pas rien, quand même. Je reviendrai quand même 10 secondes sur...
Parce que j'ai Alors, c'est important ce que vous venez de dire.
Il faudra se rappeler ce que Léon XIV, d'abord le titre du livre, parce que Léon XIV, il est plus dur avec l'IA que Ferial Furon a voulu dire. D'abord, il s'appelle... Non, mais en plus, écoutez-le quand il en parle. Ça s'appelle Magnifica Humanitas. Magnifique humanité. Et lui, il fait complètement écho. Et moi aussi, voyez-vous, Ferial, j'ai écrit ce livre Tsunamia avant l'encyclique de Léon XIV, qui lui... quelque part en croisade, et je pèse mes mots, il part en croisade, et je pense qu'il a raison, où il dit faut faire attention à la déshumanisation de l'humanité à cause de l'IA.
Alors, on peut dire que le pape Léon XVI, il est dans une IA-phobie.
Léon XIV, il met vraiment plusieurs fois, je l'ai lu ce week-end, il n'est pas IA-phobe, mais il dit Magnifica Humanitas, l'humanité d'abord.
Oui, l'humanité alors, d'abord, exactement, il parle justement de ses devoirs. Et effectivement, si on s'achemine vers ce transhumanisme, post-humanisme, là, c'est une réelle dystopie. Et effectivement, il alerte sur cette tendance. C'est un lanceur d'alerte.
Vous le faites,
mais
vous, dans vos ouvrages respectifs.
Moi, j'ai bien lu l'encyclique. Moi il n'est pas IA-phobe. Il ne dit pas cet outil est maléfique, ne l'utilisez pas. Il dit qu'il faut l'utiliser avec discernement.
Je n'ai pas dit ça.
Avec discernement, d'où l'importance que tous les corps de la société s'investissent de ce sujet-là, que ce soit les experts, les chercheurs, les familles, les parents, les éducatifs, parce qu'on va vivre avec cet outil.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, on va revenir, bien sûr, au sommet Choose France, parce qu'il est important, il y a eu des investisseurs, il y a aussi la création d'emplois, et la France en a besoin, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi est-ce que la France est une très bonne destination pour ces investisseurs?
Ce qui paraît paradoxal, puisque la France, a priori, on est très dans le sabotage en France. Je veux dire, la France se tire souvent des balles dans le pied, on est les champions du sabotage, je vous rappelle de mon livre « Libérez votre cerveau de son saboteur ». La France, comme disait un vieux dicton allemand, c'est des peuples qui vivent au paradis et souvent se croient en enfer, donc on est en train de détruire la France, et c'est pas nous aider mutuellement que d'être continuellement dans la critique et dans la plainte, ce qui est très dans l'état d'esprit français, ça. Or là, en l'occurrence, Nadia, la France, force est de constater qu'elle est encore attractive, puisque énormément de grosses entreprises internationales viennent investir. C'est ça, Choose France, voyez,
Nadia. Oui,
d'accord,
mais c'est, sauf qu'il faut rajouter à ce que vous venez de dire, que la France ouvre la porte à ce qu'on appelle, à ce que certains appellent des colonies numérique. Alors pourquoi la France est une bonne destination ? Parce que la France, justement, a une infrastructure et un environnement tout à fait adéquat sur le plan énergétique et sur le plan administratif.
C'est
donc c'est pas naïf. Il faut pas être justement dans cette analyse en disant la France est attractive.
Mais c'est tout à notre honneur, Nadia. Ce que vous venez de dire.
Faut pas
continuellement dire que la France tombe parce que c'est une vision à la Bavraise. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, la France qui
tombe. Et qu'est-ce que vous en faites de la souveraineté numérique, cher Christophe?
Oui, non, mais c'est un vrai sujet, la souveraineté numérique.
Mais oui, bien sûr,
Nous posons la problématique.
Nous posons la problématique de la souveraineté numérique dans le cadre de cette émission. On peut pas se contenter de dire la France est un pays attractif et puis on ferme les yeux. La France ne doit pas fermer les yeux, elle doit avoir sa souveraineté numérique.
Bien sûr.
Vous en parlez dans vos ouvrages, là,
Mon ouvrage, c'est une réflexion anthropologique sur la question de l'IA. C'est plus un ouvrage sur l'humain que l'IA. Donc, je n'ai pas abordé les sujets géopolitiques, politiques que soulève
cette... Moi, je l'ai vu dans l'ouvrage, oui.
La souveraineté numérique, Nadia, j'ai oublié de vous dire qu'un pays tout seul, il n'est plus à haut niveau. Il faut que ce soit au niveau de l'Union européenne. Mais là, je mets les pieds dans le plat, Nadia. Il y a des lois qui sont passées. Vous avez vu qu'il y a des actes qu'ils avaient mis en place au niveau de l'Union européenne, au niveau notamment de la défense aussi de lutter contre tous les magnats des réseaux sociaux. Mais c'est jamais appliqué, Nadia. Rien n'est appliqué depuis quelques mois.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est bafoué. On voit que, justement, j'ai envie de faire une petite transition, mais là, on marque peut-être une pause avant d'entrer un petit peu... On est dans le vif du sujet, mais on va pénétrer un petit peu dans votre réflexion, dans vos ouvrages respectifs. Je rappelle, Ferial Furon, Réinventer l'humain à l'heure de l'intelligence artificielle, et c'est paru chez Très Daniel. Et puis, bien sûr, Tsunamia, bien signé Christophe Médici, maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est préfacé par Stéphane Mas,
oui,
que nous saluons.
Que vous connaissez très bien,
absolument,
grand ami.
Que nous saluons.
Vous adorez Stéphane Mas, moi aussi.
Absolument, qui
très
fait plein de
préface,
bonnes choses. Très belle
Stéphane,
préface, mais en tout cas, merci d'être venu. On marque une pause et nous allons retrouver, bien sûr, la suite de cette émission à 22h. Donc, restez branchés sur nos programmes. À tout de suite.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bell.
Rebonjour et merci de rester branché sur nos programmes. C'est dans cette deuxième partie que nous allons aborder effectivement le contenu des deux ouvrages de nos deux invités qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être dans nos studios, dans les studios de Radio Orient. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer d'en savoir un peu plus sur leur analyse, leur décryptage et bien sûr réinventer l'humain à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est tout un programme signé Ferial Furon et puis Tsunamia avec Christophe Médici. Alors avec vous justement, Ferial Furon, vous avez, dans le cadre de cet ouvrage, vous avez été à la rencontre de 9 personnalités pionnières, scientifiques, chercheurs et praticiens qui interrogent les transformations de l'humain et son devenir. Une 10e voix anonyme issue d'une monde technologique apporte un éclairage singulier venu du cœur du système. Et c'est qui, la 10e voix, c'est vous?
Voilà, est anonyme. Non. C'est vraiment un acteur très influent du monde de la tech, mais qui a préféré intervenir
garder
dans mon livre.
L'anonymat.
Parce que j'aborde des sujets, notamment scientifiques, qui sont assez controversés au niveau du paradigme dominant. Je parle de l'alchimie. Donc c'est vraiment un art millénaire sacré qui est très galvaudé aujourd'hui, mais qui... donne une vision du monde qui est différente justement de celle qu'on a citée tout à l'heure, mécaniste, transhumaniste, et qui nous mène vers le transhumanisme et vers en fait une mécanisation de l'humain.
Pour ne pas dire une robotisation.
Une
de
robotisation de l'humain.
Voilà,
l'humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, comme je disais tout à l'heure, on est à un tournant et c'est à l'humain justement de réinvestir son humanité pour un nouvel humanisme, en fait, à l'ère de l'IA.
Mais vous êtes dans le constat, mais comment concrètement on peut décliner ça, Christophe Médici?
Déjà, c'est pas pour rien que j'ai appelé le livre Tsunamia, parce qu'un tsunami,
bon, fort,
ça arrive, et parfois les gens
un
sont sur la plage.
Un tsunami ravage tout.
Et c'est bien le problème que je veux citer déjà, et je pense que c'est pour ça que des livres comme les nôtres sont tout aussi essentiels en ce moment, c'est que Nadia, vous êtes une des rares personnes à en parler un peu dans les médias, mais 98% des gens dorment sur la plage, le tsunami arrive, parce qu'on n'a pas à attendre, on est plein dedans depuis quelques années. Et qu'est-ce que pensent les gens de ça, Nadia? Parce que vous avez vu que dans mes chapitres, il y a un chapitre sur... J'ai appelé ça l'humanité, moi. Je dis qu'on a monté, et d'ailleurs je le dis à tous vos éditeurs, j'ai monté le premier mouvement humanitaire au monde pour essayer de réveiller les gens, justement. Parce que tout le monde est touché. L'éducation, Ferial en parlant à juste titre en début d'émission, la famille, l'amour, si vous voulez que je parle 10 secondes d'amour. L'amour, Nadia, parce que vos auditeurs vont être scotchés, mais c'est la vérité.
Oui.
Une Américaine sur 5 veut une histoire d'amour avec des applis qui s'appellent Replica ou Caractère 2.0. Et elle t'en tombe folle amour. Vous vous rappelez du film Her, qui était sorti en 2013 avec Joaquin Phoenix? Et ben là, c'est à fond dedans. 75% des ados américains vivent une histoire d'amour avec un chatbot. Et le pire, c'est que dans le processus mimesis catharsis, parce qu'il faut voir, il faudrait vous tester une fois, c'est une voix très doucereuse, très humaine, qui vous parle d'amour et tout, ou un homme ou une femme.
Vous sentez pas que c'est un robot, c'est au bout du fil,
mais
non?
C'est à s'y méprendre, c'est un être humain, au niveau de la voix.
Oui.
Et donc le problème,
mais au niveau de la respiration, au niveau de la réaction,
au niveau
de l'émotion. Est-ce que l'émotion, elle est matérialisée à travers l'IA?
Alors je finis, après je donne la parole à Ferial. Le vrai problème, il est à mon avis que si on ne met pas en place une formation à l'IA, et même une réflexion, j'aime bien l'idée de Ferial, éthique et philosophique, même au sein de l'éducation nationale, ils devraient, puisqu'ils utilisent tout ça dès qu'ils sortent de l'école, eh bien faisons quelque chose où on en parle dans les écoles.
Exactement, là je rejoins complètement... Oui, merci Nadia. Là je rejoins complètement Christophe, c'est très très important, en fait, d'informer.
Mais oui.
Et surtout sur ces questions d'anthropomorphisme, parce que tout à l'heure, donc là Christophe parle effectivement de personnes qui tombent amoureux d'un chatbot. Il faut savoir qu'au Japon, ils demandent à être à se marier avec des robots. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai phénomène de société.
Après, une relation, quoi.
Et voilà. Donc, mais ça nous interroge sur ce qui est devenu l'humanité. Vous vous rendez compte, préférer la compagnie d'un robot que d'un humain. Donc l'IA nous fait réfléchir sur ce que nous sommes devenus et on est à l'heure du choix. La question, ce n'est pas quelle IA on veut, c'est qu'est-ce qu'on va devenir, quel est l'humain
avec l'IA.
Avec l'IA.
Tout à fait.
Je voulais dire une chose sur justement cette question de conscience. Et Nadia, tout à l'heure, vous parliez effectivement d'émotions, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de développer des robots émotionnels qui imitent les émotions, qui reconnaissent non seulement les émotions humaines quand on interagit avec ces robots, mais aussi il va y avoir des capteurs, donc ils vont pouvoir simuler aussi des émotions. Donc,
on sera dans une simulation.
Voilà,
c'est quand même important.
C'est quand même un fort risque d'anthropomorphisme.
On n'a pas défini ce que c'est que l'IA, l'intelligence artificielle. On est dans l'intelligence qui est artificielle.
Alors, il faut dire qu'on est dans une intelligence aussi artificielle qui est de troisième génération, qu'on appelle maintenant générative. Et c'est pour ça que je lui ai donné une date de naissance. C'est le 29 novembre 2022, où ChatGPT est né. Avant ChatGPT, Nadia, il n'y avait pas autant de gens. Maintenant, c'est près de 2 milliards de gens, tous nos auditeurs écoutent, là, qui utilisent ChatGPT à longueur de journée. Et vous et moi, on a des amis médecins, on a des amis avocats, on a des amis chefs d'entreprise, des amis n'importe quoi, journalistes. Tout le monde utilise ChatGPT.
Alors, est-ce qu'on peut parler des dangers, justement? Vous avez dit médecins, justement. Alors, quand on sait qu'il y a quand même pas mal de patients qui, aujourd'hui, passent par ChatGPT, pour savoir pathologie.
Les médecins sont partagés.
On a
des amis médecins,
vous et moi. Mais attendez, mais c'est quand même grave si on consulte plus les médecins.
Les aider beaucoup dans les diagnostics, dans faire plein de choses, faire aussi beaucoup de... Et après, la question va se poser pour des opérations aussi. Et puis, ça va soigner. C'est pour ça que je suis d'accord avec Fabien. Il ne faut pas être IA-phobe. Ça va sauver peut-être des maladies qu'on ne pouvait pas soigner avant, notamment parmi les maladies neurodégénératives. On sait que ça va pouvoir aider peut-être au niveau de l'Alzheimer.
Mais est-ce qu'on va jusqu'à remplacer le médecin par ChatGPT? Mais en fait, c'est ça la question.
Justement, moi ce que je défends à travers ce livre, c'est que l'homme ne doit absolument pas être remplacé par la machine. Il faut absolument que l'homme utilise cette machine vraiment comme un soutien, quoi, je veux dire. Mais il faut qu'il reste maître de l'outil, mais bien évidemment. Parce que, vous savez, on n'a pas abordé tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de nos contemporains maintenant qui utilisent l'IA dans un cadre thérapeutique, par exemple. À minuit, on chatte avec ChatGPT parce qu'on a des petits problèmes de cœur, etc. C'est un vrai sujet, mais ça ne remplace pas non plus une psychothérapie.
Vous lui consacrez justement Ferial Furent.
Il faut que tout le temps que l'humain soit là.
Votre ouvrage, tout un chapitre, ChatGPT, soumission ou métamorphose, grand point d'interrogation.
C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est à un carrefour. On peut, si on se soumet à ChatGPT, si on délègue notre pensée, c'est un vrai danger. En revanche, si on l'utilise avec discernement, intelligence, l'homme peut se métamorphoser et peut-être se transcender.
Transcender, puisque vous dites justement que ChatGPT va nous rendre immortels.
Alors, non, là,
c'est impossible.
Ah non, ça, c'est. C'est Laurent Alexandre qui dit ça. Voilà. Moi, j'ai une pensée extrêmement critique par rapport à.
C'est Laurent
à ce
Alexandre.
Que dit, voilà.
Vous le
citez.
Je le cite parce que je suis contre cette vision-là, justement, où. Ça, c'est la vision transhumaniste, voire post-humaniste, où, effectivement, grâce à l'IA, on va pouvoir être immortel. Moi, je défends une autre vision.
Nadia, ce que je voudrais dire, c'est par exemple, pour vos auditeurs, pour les éclairer, il y a une étude de MIT qui est sortie il y a 6 mois, où ils faisaient faire aux étudiants un devoir. Peu importe, on a tous ici fait soit des dissertations, soit des essais. Et il y avait 3 groupes, n'est-ce pas, Nadia? Il y avait un groupe qui ne pouvait utiliser, je vais faire une métaphore basique, que son jus de cerveau. Un autre groupe n'utilisait que les moteurs de recherche classiques, Google et tutti quanti. Et les troisièmes n'utilisaient que l'IA. Après, ils ont fait appel à des neurologues. Évidemment, les premiers avaient énormément phosphoré, ils avaient énormément réfléchi. Et donc, ils étaient très... on voyait tout leur cerveau marcher. Les deuxièmes, il y avait déjà une part du cerveau qui ne marchait pas. Quant au troisième, ils savaient à peine de quoi parler le sujet. Alors, je ne sais pas, comme dit Laurent Alexandre, si ça va nous rendre immortels, mais ce que je sais, c'est que ça risque de rendre l'homme plus bête, l'abêtir. Parce que
Laurent Alexandre, c'est aussi une aspiration, un objectif recherché par l'homme.
Oui, il repose en fait sur un paradigme mécaniste, selon lequel l'homme est une machine biologique.
Tout à fait.
Mais moi, je mets en lumière une autre vision de l'homme où c'est aussi des émotions, c'est aussi une spiritualité, c'est aussi, vous voyez, je veux dire, on n'est pas des robots. La vision de Laurent Alexandre sur l'humain, c'est que l'humain est un robot, en fait, quelque part. Et grâce à l'IA, on va rendre l'humain immortel, on va même peut-être transférer sa conscience dans une machine, ne plus avoir de corps. Il y a un réel problème au corps aujourd'hui. Donc, il est urgent de se reconnecter à son corps, à ses émotions. Et c'est pour ça que je dis, on est vraiment à tournant.
Donc vous dites halte, justement, vous avez créé une association,
oui,
Christophe Médicis,
OMIA. Humanitaire.
Et dans justement cette association, vous avez développé toute une batterie d'outils.
Et on fait des conférences et on va inviter Ferial d'ailleurs à venir faire une conférence avec moi.
Outils, justement, comment lutter contre cette emprise
et
de l'IA.
La seule manière.
Est-ce qu'on peut donner quelques exemples à nos auditeurs
slogan,
qui nous écoutent,
Nadia, l'humain en tête. Je crois qu'il y a un vrai souci, il faut réinventer la définition de l'intelligence. Voilà, puisque ça s'appelle l'intelligence artificielle, il faut montrer que l'intelligence humaine, l'humain n'est pas une intelligence artificielle plus faible que l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la même chose. L'intelligence, n'oubliez pas, chers amis auditeurs, que ça vient du latin interligare, qui veut dire relier ensemble. Ce qu'il faut dire, je sais que Ferrier est d'accord avec moi, l'IA n'aura jamais de cœur. L'IA n'aura jamais d'âme. L'IA n'aura jamais d'histoire de vie.
De conscience.
Et de conscience.
Et, de conscience.
Et là, Ferrier et moi, on est exactement sur la même longueur d'onde. Si on part de ça, Laurent Alexandre, il a tout faux. Et puisque on va certainement se retrouver pour les présidentielles, tous les trois, je vais dire une seule chose. Et je vais faire un petit jeu de mots, j'ai préparé ça avant l'émission quand je réfléchissais à notre émission. Nous allons, alors faut pas être Nostradamus pour savoir que l'IA va vérouler toute la campagne présidentielle, on est d'accord. Nous allons assister à la première campagne présidentielle, je fais un jeu de mots, paradoxiale. Elle ne sera jamais autant présente, et je vous fiche mon billet,
elle
Nadia,
sera algorithmée
complète,
en tout cas.
Mais elle sera en même temps complètement absente, parce que très peu, et Ferial le sait, des candidats à la présidentielle n'aborderont le sujet central qu'on aborde, elle et moi, l'IA dans nos vies. Et alors donc, paradoxe, complètement présente, toute la campagne présidentielle, et je vous fiche mon billet, Nadia, on en reparle, complètement absente.
Alors, on anticipe pas sur 2027, remarque qu'on est en plein campagne.
Dans quelques mois.
Mais les campagnes ont commencé, on a vu Attal a fait son meeting, et le prochain 5 juillet, c'est celui d'Edouard Philippe, et bien sûr d'autres meetings vont en suivre. Mais moi, j'aimerais savoir, avant la fin de l'émission, justement, comment se prémunir contre tout ça, justement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à nos auditeurs, il faut faire un sevrage numérique, il faut éviter, par exemple, quand on a une pathologie, d'interroger ChatGPT, mais plutôt aller voir son médecin. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Est-ce que vous prodiguez des conseils? Vous êtes pharmacienne en plus de...
Oui, je suis pharmacienne. Je dis effectivement qu'il ne faut pas rendre cet outil maléfique du style on l'utilise pas, on va pas lui poser la question. Moi je l'ai testé cet outil. Il est très performant.
Tout le monde l'a testé.
Donc pourquoi? Alors on peut très bien poser des questions à ChatGPT pour alors au niveau du diagnostic, moi en tant que pharmacien, moi quand mes enfants font ça, je leur dis stop, maintenant vous allez voir votre médecin, vous allez voir votre pharmacien, et il faut arrêter de à chaque fois demander à ChatGPT qu'est-ce que j'ai, c'est ça les symptômes. Mais c'est juste, il faut utiliser ça avec parcimonie, mais pas remplacer des médecins, des pharmaciens, ou des pharmaciens, parce que bon, je prêche pour ma paroisse, par un outil tel que l'IA.
Peut-être que les pharmaciens vont plus exister un jour, hein.
Nadia, n'est-ce pas ? Vous plaisantez, mais sans plus, parce qu'on ne sait pas à 5 ans le nombre de métiers qui vont être balayés, c'est des centaines de milliers. Il y a une phrase de Mark Twain que j'adore qui dit « Il est plus facile de leurrer les gens que de leur faire prendre conscience qu'ils ont été leurrés. » Or, en plus, l'humain aime bien se faire leurrer. On le voit bien pendant les campagnes présidentielles. Il le demande même, parce qu'on sait très bien que les candidats, par exemple, à la politique qui sont les plus lucides et qui essaient de jouer la vérité, hein, eh bien, ils ne sont jamais élus. On est bien d'accord. Hein, on est d'accord. Le but, c'est que pendant les élections, on grasse gratis. Et ça va être encore le cas. On est d'accord. Bon, maintenant, le problème, il est qu'il faut vraiment mettre l'humain en tête, dire que cet outil-là, on ne sait pas entre les mains de qui ça va tomber un jour ou l'autre. Oui. Imaginez que ça tombe entre les mains d'un Hitler 2.0. Qu'est-ce qu'on en fait, nous?
Absolument.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Absolument.
Même le PDG d'Anthropique, d'OpenAI et tous les grands chercheurs scientifiques qui ont fondé l'IA disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'on a amené à l'humanité ?» Alors, moi, je donne un seul conseil à vos auditeurs. D'abord, lisez nos livres, devenez lucides, et je suis sincère, parce que de toute façon, il ne faudra pas compter sur les politiques et la campagne présidentielle pour mettre l'IA au cœur. Ce sera pas, ils vont tous parler d'immigration, vous le savez, on est à Radio-Orient, de problèmes qui font peur aux gens, alors qu'on est, nous, Ferial et moi, sur le cœur du sujet psychosociologique qui touche tout le monde.
Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire?
Lisez
c'est
nos
justement
livres.
Lisez Tsunamia et réinventer l'humain. Signé Ferial Furan et Christophe Médicis. Alors, on aime tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'IA, ok, on est d'accord, mais avec modération.
Ouais.
C'est bien ça?
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on retient de cette émission?
Restons vivants, Voilà, c'est et ne devenons pas machines.
Et l'humain plus que jamais.
Et surtout, maintenant, une haute qualité relationnelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Et la haute qualité relationnelle, c'est la réelle présence d'humains ensemble, comme on est là sur le plateau Ferial, vous et moi. D'humains ensemble. Voilà. Je ne veux pas un jour être interviewé par une journaliste qui remplacera la formidable et grande Nadia May et qui sera un robot, une machine.
Sur ma voix, une
voilà,
machine,
et qui sera une machine. Voilà. Nadia, on rigole pas. C'est peut-être ce qui va se passer dans 10 ans pour tout le monde. On est d'accord? Voilà. Donc,
vous voyez, tous les deux, ils sont alarmistes, mais
non.
Ils disent que le pouvoir de l'IA est là, est incontournable, mais sachez l'utiliser avec modération. Merci Christophe Médici,
merci
à vous Ferial Furan. Merci à mes auditeurs de nous rester fidèles, bien sûr rester branchés sur notre antenne. Cette émission sera rediffusée également le samedi de 9h à 10h. Excellente écoute.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.